Alors, nous continuons notre session d'aujourd'hui et nous commençons par une petite période de questions. J'ai déjà deux questions qui sont venues sur le chat. Une première question de Mireille concernant la page 17 de ton support de cours. Parce qu'elle a remarqué que dans les notes, il était dit que Anne, le souverain sacrificateur Anne, avait été destitué en 15 après Jésus-Christ et que Caïphe a succédé en 18. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, il n'y a pas eu de souverain sacrificateur?
C'est à vérifier ça. C'est drôle parce que c'est une note que ça fait longtemps que j'ai, puis je me souviens même pas si j'ai déjà vérifié ça, mais ça a attiré mon attention en préparant le canevas de notes. Je vais vérifier ça pour m'assurer, voir est-ce que c'est le cas ou pas, puis je vais revenir avec ça. Parce que peut-être qu'il y en a eu un, mais que l'accent est sur la relation qu'il y a entre les deux. Donc peut-être qu'il y en a eu un, mais je vais quand même vérifier.
Et puis, une autre remarque. La dernière phrase m'a échappé. Ce n'est pas croire au salut, mais reconnaître. C'est par rapport à la question de croyance. Est-ce que tu
Oui.
peux peut-être repréciser l'utilisation du mot, du verbe croire dans l'évangile de Jean?
Oui. Parfois, c'est croire à salut, mais parfois, on peut enfin comprendre le sens, reconnaître la véracité de quelque chose, mais uniquement d'un point de vue intellectuel. Ou par les faits, je veux dire, les gens n'étaient pas insensés, ils pouvaient voir que les choses sont vraies, mais sans nécessairement qu'il y ait conversion. Tu vois, c'est ça la différence entre les deux.
Donc c'est toujours important de regarder le contexte, de lire les versets avant, après, pour essayer de bien comprendre le sens d'un mot.
Oui, effectivement, j'étais dans les Actes aujourd'hui, là, je faisais la révision des Actes 19, puis, ben, oui, voilà, les disciples de Jean-Baptiste que Paul a rencontrés à Éphèse, Paul, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Puis là, la réponse, c'est, on n'a même pas appris qu'il y avait un Saint-Esprit, c'est quoi ça? Donc, c'est assez évident que ce croire-là, le premier croire au sujet de ces disciples-là, c'était probablement qu'ils avaient reconnu la véracité de l'enseignement de Jean-Baptiste, mais sans avoir vraiment vécu la nouvelle naissance et être sauvés. C'est le verbe croire qui va suivre, par contre, là, on parle de croire à salut. Même chose pour Simon le magicien dans les Actes 8, je pense, Simon lui-même crut. Puis après avoir été baptisé, il était toujours collé sur les disciples. Je me rappelle pas si c'est dit comme ça, mais franchement, Pierre va l'appeler fils du diable. C'est assez évident que son croire était pas à salut, là.
Voilà, j'ai pas d'autres questions, alors tu peux continuer le cours.
OK, merci. Et puis on garde une période à la fin, donc je fais disparaître la fenêtre de Zoom. OK, maintenant, point 3, on est arrivé aux rencontres personnelles, donc qui marquent ces premiers ministères du Seigneur durant la période judéenne primitive. Sur la carte La vie de Christ, vous allez l'inscrire au point 2, rencontres personnelles, sous le fameux 8 mois, là, ligne 2. Donc, rencontres personnelles, puis inscrire peut-être Nicodème entre parenthèses. Pour nous rappeler que c'est durant cette période-là que Jésus va rencontrer Nicodème. C'est une des rencontres les plus fameuses qu'on a entre Jésus et une personne dans les évangiles, avec la femme samaritaine aussi, bien sûr. Donc, c'est vrai que Jésus s'adressait très souvent à de grandes foules, puis savait le faire d'une manière parfaite, mais Jésus prenait aussi du temps en privé avec des individus. Et on trouve plusieurs rencontres personnelles entre Jésus et certaines personnes à travers les quatre évangiles. Dans ce que vous avez, dans vos notes de cours, en fait, vous avez un tableau qui suit à la page 24 qui n'inclut pas les discussions entre Jésus et certains groupes comme les disciples, par exemple, d'une manière collective, les pharisiens ou autres groupes politiques et religieux. C'est probablement pas une liste exhaustive non plus. Par contre, la liste qui est mentionnée là, de ces quoi, ces 38 rencontres personnelles du Seigneur, eh bien, elle est présentée en ordre chronologique. Donc, à travers les 3 années de ministère public, on peut clairement identifier au moins ces 38 rencontres-là personnelles entre le Seigneur et donc une ou l'autre de ces personnes rencontrées, c'est la colonne du milieu. Et à quelle occasion ça vous est mentionné dans la dernière colonne? Je vous encourage à prendre le temps de lire cela. Il y a quelques notes de bas de page qui vont vous donner quelques explications aussi sur ces rencontres personnelles et sur le tableau, en fait. On passe directement à la page 25 pour compléter les 2 paragraphes qui sont là. Donc, nous lisons ceci. Deux des plus longues rencontres personnelles que le Seigneur a eues avec des personnes se sont produites pendant la période judéenne primitive de son ministère public. Celle avec Nicodème. Donc, vous pouvez inscrire ici Nicodème. Vous l'aviez déjà fait sur la carte, si ce n'est pas fait, vous le ferez. Et l'autre étant bien sûr aussi avec la femme samaritaine. Et seulement l'Évangile selon Jean nous présente ces 2 rencontres-là. Il n'est pas rare de voir les commentateurs démontrer 2 tableaux vraiment opposés l'un à l'autre de ces 2 personnes-là en réalité. Et on peut le voir dans vos notes de cours, puis vous compléterez les espaces aussi. Ces 2 personnes sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. L'une de ces personnes est un homme, l'autre est une femme. L'homme est identifié par son nom, la femme par sa ville. L'homme est un chef religieux. Donc, vous vous inscrivez religieux aussi, ici, membre du Sanhédrin. Et puis, la femme, elle, est une épouse immorale. Quel contraste, hein? Religieux, immoral. Pourtant, tous les deux ont le même besoin, d'un sauveur. L'homme a cherché à voir Jésus de nuit, tandis que Jésus s'est approché de la femme en plein jour. C'est un beau contraste aussi qu'on voit dans le récit qui nous présente ces 2 rencontres-là. Puis nous allons regarder l'entrevue que Jésus a eue avec Nicodème d'un peu plus près. Donc ça se trouve être dans l'Évangile selon Jean, bien sûr, dans les versets 1 à 15, vous pouvez inclure 16 aussi, si vous voulez, et même au-delà. Mais la rencontre est surtout dans les 15 premiers versets avec Nicodème. Et on trouve en particulier 2 questions de ce chef religieux juif. Et puis nous voyons les réponses du Seigneur. La première question dans le verset 4, comment un homme peut-il naître? Et j'ai souligné, parce qu'on néglige tellement ce détail, quand il est vieux. Et puis ensuite, il dit dans la même question, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il n'est pas stupide, il n'est pas imbécile quand il pose cette question-là. C'est une question pratiquement idiomatique qui simplement suggère que, voilà, j'ai passé à travers des expériences de naissance, puis je vais vous en parler en détail. La seule option que je vois, ou la seule option que je vois, c'est de recommencer le processus, mais pas parce que c'était possible. Il savait bien que c'était pas possible, mais ça démontrait comme je ne sais pas de quoi tu parles. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est ça que ça veut dire. Peut-il entrer dans le sein de sa mère? C'est une autre façon de dire, ben là, ça me dépasse. Ben là, je comprends plus rien du tout, là. Et ensuite, la seconde question que Nicodème va poser, c'est comment cela peut-il se faire, en lien, bien sûr, avec la nouvelle naissance? Jésus répond à la première question, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans la seconde question, il va répondre en parlant de croire en celui qui est descendu du ciel. Alors, nous allons regarder d'un peu plus près cette rencontre-là et ce que nous trouvons dans le texte en particulier. Dans vos notes de cours, nous lisons ceci. Dans le judaïsme pharisaïque, il y avait, semble-t-il, pas tous les commentateurs sont d'accord avec cela, mais bon, ça semble assez cohérent, 6 expériences que l'on qualifiait de nouvelles naissances. 6 expériences qu'on qualifiait de nouvelles naissances. Remarquez que la question de Nicodème, c'est comment naître de nouveau quand on est vieux? C'est même pas sur le phénomène de naître de nouveau. Il demande pas c'est quoi la nouvelle naissance. Il est peut-être là le problème. C'est que cet adverbe-là, anothein en grec, qui est traduit par nouvelle naissance, ou de nouveau plutôt, il a le sens primaire, c'est-à-dire son sens principal. C'est le sens d'en haut. D'ailleurs, si vous lisez un peu plus loin dans le chapitre 3, verset 31, il me semble de mémoire, il est question de celui qui descend d'en haut, celui qui vient d'en haut. Et c'est le même adverbe, anothein. C'est son sens primaire, primordial, principal, si je peux dire. Il comporte aussi peut-être l'élément de nouveau, mais c'est surtout d'en haut. C'est ça que ça veut dire, anothein. Jésus parlait vraiment de naître d'en haut. Et Nicodème, lui, il a probablement compris le sens de nouveau. Alors, dans son esprit à lui, c'est pas un concept nouveau, ça, naître de nouveau. Parce que dans le pharisaïsme, de l'époque, on enseignait cela, la nouvelle naissance. Et puis, il y avait donc ces six expériences de la nouvelle naissance qui étaient bien connues. Et puis, lui, il était passé par quatre d'entre elles. Donc, dans vos notes de cours, nous lisons ceci au paragraphe du milieu, en bas de la page 25. Nicodème avait probablement expérimenté quatre d'entre elles, quatre nouvelles naissances. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Les deux expériences qu'il n'avait pas à passer, donc, était celle d'un gentil ou un non-juif qui se convertissait au judaïsme. Quand ça arrivait, autrement dit, quand on devenait prosélyte, eh bien, on passait par une nouvelle naissance, parce que maintenant, on était adepte de la religion juive. Donc, on adoptait le judaïsme comme étant sa propre religion. On faisait du Dieu d'Israël, son propre Dieu maintenant. Et c'était, selon les pharisiens de l'époque, selon les rabbins de l'époque, c'était une nouvelle naissance. Mais Nicodème est clairement un juif, donc il passe pas par cette nouvelle naissance-là. Et l'autre nouvelle naissance par laquelle il n'est certainement pas passé, c'est celle du couronnement d'un roi. Donc, quand un roi était couronné, eh bien, on disait de lui qu'il était né de nouveau. D'une façon générale, on parlait d'accéder au trône comme étant une nouvelle naissance, même si il n'y a pas de roi qui pas que je dirais comment je dirais qu'il n'y a pas de roi établi sur le trône, on le sait très bien en Israël à part Hérode qui a ce titre-là honorifique, mais quand même quand on parle du couronnement des rois dans l'histoire d'Israël, on parlait d'une nouvelle naissance. Alors, ces deux nouvelles naissances-là, ben, ne font pas partie de l'expérience de Nicodème. Il n'est pas un païen, puis il n'était pas roi non plus, de toute évidence. Donc, on laisse ça de côté. Mais les quatre expériences de la nouvelle naissance qu'il avait certainement expérimentées sont les suivantes. Vous pouvez les inscrire dans les lignes A à D en bas de la page. Le bar mitzvah, première nouvelle naissance. Bar mitzvah. Bon, comment ça s'écrit? BAR, espace, M ITZVAH. J'espère que vous avez bien reçu ça. MITZVAH, bar mitzvah. C'est de l'araméen qui signifie fils du commandement. Et ça se passait vers l'âge de 12-13 ans. Un jeune homme juif devenait à ce moment-là responsable à l'égard de la loi et responsable à l'égard de ses propres péchés. Donc, il était responsable devant Dieu. C'est comme si on disait, il devenait adulte devant Dieu. Le bar mitzvah était considéré dans le judaïsme de l'époque comme étant une première nouvelle naissance. Ensuite, le mariage. Là, c'est simple. Le mariage au point B. Il n'est rien dit à propos de la femme de Nicodème dans le texte de l'Écriture, mais nous savons qu'il était marié. Pourquoi? Parce qu'il était membre du Sanhédrin. On le voit plus tard dans l'Évangile selon Jean. Et pour être membre du Sanhédrin à l'époque, il fallait être marié. Donc, il avait passé par cette deuxième nouvelle naissance. La troisième, rabbin. Donc, quand on devenait rabbin, on passait par une nouvelle naissance et Nicodème avait été ordonné rabbin puisqu'il était pharisien. Donc, sa vie religieuse et puis ce titre religieux était comme recevoir une nouvelle naissance dans le judaïsme de l'époque. Et la dernière nouvelle naissance, c'est celle d'un chef d'une école rabbinique. Voilà pourquoi la ligne est plus longue un peu. Chef d'une école rabbinique. Jésus, quand il s'adresse à lui, il lui dit: Tu es le docteur d'Israël, et non pas un docteur d'Israël. C'était un chef des Juifs, donc membre du Sanhédrin, par cette expression, c'était clair. Mais par contre, quand il dit tu es le docteur d'Israël, d'après certains érudits juifs, cela signifiait qu'il était le chef, le leader d'une école rabbinique en Israël. Donc, il pouvait former d'autres rabbins parce qu'il était rendu à ce niveau élevé, semblable à Gamaliel, très certainement. Donc, Nicodème, dans son expérience juive, il était passé à travers toutes ces nouvelles naissances du judaïsme et il était maintenant vieux. Le mot grec utilisé pour vieux, guéron, je pense, je vais de mémoire parce que j'ai rien d'autre que les notes devant moi, là, mais disons que ça ressemble à ça. Pythagore, le grec nous dit que c'était à peu près entre 60 et 80 ans. Donc, oui, ça correspond bien au personnage de Nicodème. Puis, effectivement, il était vieux. À l'époque, c'était déjà considéré comme étant vieux. Et donc, ayant atteint la maturité, étant vieux, ayant traversé ses quatre nouvelles naissances, il arrive au bout et il dit, ben, d'une façon un peu rhétorique, hein, ben, il faudrait recommencer le processus. Mais en fait, même la question en grec, c'est clair que Nicodème, il n'attend pas une réponse positive à ça. Contrairement, il y a un adverbe en grec qui est utilisé pour dire, comment je dirais, en français, c'est comme s'il avait dit: Un homme ne peut pas recommencer, n'est-ce pas? Et ça, la question, c'est, ben, bien sûr que non, c'est évident, non, on ne peut pas recommencer. Mais en fait, ça veut même pas dire ça. Ça veut juste dire, je suis au bout de mes connaissances, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu veux dire, là. J'ai connu les nouvelles naissances, mais de quoi tu parles exactement? Alors, c'est triste puis un peu, c'est ironique aussi d'avoir des commentateurs qui font passer pour Nicodème pour un homme stupide, et puis comme quelle question ridicule, imbécile, un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Franchement, s'il était le docteur d'Israël, j'ai aucun doute qu'intellectuellement, rationnellement, c'était un homme solide, il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois qu'il est préférable de soutenir, comme le font certains commentateurs plus sérieux. Il cite 1 Corinthiens 2, 14 qui nous dit que l'homme naturel n'accepte pas ou ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont comme une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si on applique 1 Corinthiens 2, 14 à Nicodème, ça va. C'est vrai, il ne pouvait pas saisir spirituellement de quoi Jésus parlait. Ça, je suis totalement d'accord avec ça, mais franchement, il ne faut pas le faire passer pour un idiot. Il n'était pas du tout idiot. Donc, le problème, c'est que Nicodème avait seulement la connaissance pharisaïque, judaïque, si je peux le dire comme ça, du concept de la nouvelle naissance, mais il fallait qu'il comprenne la naissance d'en haut, plutôt. C'est ce que vous devez inscrire dans vos notes de cours à la page où on est rendu là, 26. L'expression de nouveau dans le verset 3 peut être traduite de deux manières, ainsi, de nouveau, point 1. Et d'en haut, point 2. Et dans ma compréhension à moi, Jésus l'utilisait comme d'en haut, mais Nicodème a compris de nouveau, et c'est pour ça qu'il était tout mêlé finalement, il n'arrivait pas à comprendre ce dont Jésus parlait. Mais dans la réponse du Seigneur qu'il va lui donner, c'est en fait, il parle de naître d'eau et d'esprit. Et que signifie cette expression-là? Il y a des commentateurs qui parlent de baptême, mais ça n'a aucun rapport à mon sens. Il n'y a pas de baptême dans ce passage-là. C'est le langage figuré tiré de l'Ancien Testament, en particulier des passages qui parlent de la nouvelle alliance que Jésus est sur le point d'accomplir et qui parlent d'une purification spirituelle. Et c'est ce dont parle naître d'eau et d'esprit. C'est une purification spirituelle. Lisez attentivement Ézéchiel 36, versets 25 à 27, où Dieu dit qu'il va répandre sur eux une eau pure. Franchement, on sait très bien que Dieu ne lave pas personne avec un seau et avec de l'eau. C'est un langage figuré qui nous parle de purification spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus pointe vers l'ignorance de Nicodème en lui disant « Comment se fait-il que le docteur d'Israël, chef d'une école rabbinique, ne comprend pas Ézéchiel et n'a pas réalisé la purification spirituelle dont parle Ézéchiel? » Paul, quand il s'adressera aux Corinthiens plus tard, leur dira « Vous avez été lavés. » Encore une fois, c'est certainement pas avec de l'eau, hein, c'est clair. Mais c'est dans un langage figuré qui parle d'eau, de lavage, comme dans le bain de la régénération dans Tite. Ça veut dire toujours la même chose. Purification spirituelle opérée à travers l'application de la nouvelle naissance par Dieu dans le cœur du croyant. Wow, c'était très théologique et doctrinal, puis je suis pas sûr que je le répéterai exactement de la même manière, mais voilà ce que ça veut dire. Et c'est ça qu'il aurait dû comprendre, ce pauvre Nicodème. Voilà, puis il est passé carrément à côté de cette réalité-là. Quel beau texte, celui de Jean 3, verset 1 à 16. Vous prendrez le temps de le lire plus en détail. OK, maintenant, je passe avec la femme samaritaine, peut-être en 3-4 minutes. Il y a un beau texte qui nous provient du commentaire de John MacArthur. Je vous laisse le lire. Mais rappelons-nous ce que le Seigneur a dit hein, à cette femme, lui a révélé une vérité extraordinaire que le croyant adore en esprit, en vérité, non plus dans un lieu quelconque ou particulier, dans une façon liée à des éléments terrestres, voilà, adorer en esprit, en vérité. Vous savez, quand Jésus dit ça, je me suis quand même demandé, est-ce que David avait adoré Dieu en esprit, en vérité? Absolument. Je suis convaincu que ce n'était pas nécessairement une nouveauté, mais que ça allait devenir le critère principal, l'élément le plus fondamental de l'adoration en esprit, en vérité, comme si Jésus marquait là la fin du culte tel que les Juifs l'avaient connu à travers l'Alliance mosaïque. Mais on adorait Dieu en esprit, en vérité, bien avant, je suis persuadé de tout ça. Voilà, mais pour la femme samaritaine, je ne vais pas plus loin. Le commentaire de MacArthur est très intéressant, il donne l'essentiel. Je vais plutôt laisser maintenant une période de questions. Est-ce que ça a du sens? Pardonnez-moi le marathon, là, comme Claude Henry a dit tout à l'heure. C'est peut-être parce que je suis tout seul que, dans tout cas, dans mon environnement, que je vais rapidement comme ça. Je vous vois pas.
Alors, j'ai trois questions actuellement. Je vais les prendre dans l'ordre inverse que je les ai reçus, comme ça on reste dans le thème que tu viens de traiter. Par rapport à ce mot « de nouveau
mm-hmm. »,
dans Jean 3, verset 3, hein, « Si quelqu'un est né de nouveau », alors c'est Marc-Olivier qui nous fait la remarque. Dans la version Darby, la note au sujet de « de nouveau » indique « depuis le commencement ». En fait, si je lis toute la note, je cite « non seulement de nouveau, mais entièrement à nouveau, comme d'une nouvelle source et origine de vie, depuis le commencement. »
Je trouve que l'explication qui est donnée dans la note au départ est super. C'est la finale que je pense qu'elle peut semer de la confusion un peu en parlant de commencement, mais quand il parle de source, ben, c'est exactement le sens d'en haut. C'est là la source. C'est d'où ça vient. C'est une naissance qui vient d'en haut, donc qui tire sa source de Dieu, comme le Fils descend d'en haut, d'ailleurs, dans le même chapitre un peu plus loin. Donc, je trouve que la première partie de la note, c'est bien, ça explique très bien l'aspect commencement. Ça, personnellement, je trouve que ça fait un peu confus. Mais c'est juste ma manière de comprendre les choses. Hein. Peut-être que c'est moi, dans le fond, qui comprends tout le travail.
En fait, depuis le commencement, ça concerne en fait Luc 1, verset 3. En fait, il faut comparer Luc 1, verset 3, où c'est marqué « depuis le commencement ». Et si on lit Luc 1, verset 3, c'est donc l'introduction de Luc. « Il m'a semblé bon à moi aussi, qui ai suivi exactement toute chose depuis le commencement, très excellent Théophile, de te les écrire par ordre. » Alors, je ne sais pas si
Non,
Et
franchement, je
donc,
trouve que ça sème la confusion parce que l'expression dans Luc, elle est clairement liée au commencement du ministère public du Seigneur. Donc, il expose à partir du début et il va toucher quelques éléments de la naissance. Je pense qu'on pourrait, peut-être, pourrait aller aussi loin de dire commencement de la carrière de Christ sur la terre, mais je vois pas le rapport avec l'idée de d'en haut.
Ensuite, toujours par rapport à la nouvelle naissance, c'est Jean-Jacques qui pose la question, pourquoi est-ce que la circoncision ne fait pas partie de ces nouvelles naissances?
C'est une bonne question. Je l'ignore totalement. Mais en fait, ce que les Juifs, les commentateurs juifs d'aujourd'hui, messianiques, là, qui croient dans le Seigneur, nous disent, ils la mentionnent tout simplement pas. Elle n'est pas là. Mais pour quelle raison? Je pense que c'est, on devrait juste rester dans l'emploi ou le sens que la Bible donne à la circoncision. C'est un signe. Bien sûr, c'est une expérience que vit l'enfant à 8 jours, mais ça demeure un signe principalement. Donc, c'est pas une expérience de nouvelle naissance.
C'est pas une expérience volontaire de la part de l'enfant, en tout cas. À 8 jours.
J'osais pas le dire. Il subit ça. Mais la nouvelle naissance, c'est aussi une expérience qu'on subit quelque part.
Une demande de clarification de Claude Michel. Donc, en haut de la page 26, l'expression de nouveau dans le verset 3 peut être traduite de deux manières. C'est donc de nouveau et d'en haut. Hein, c'est ce que
Exact.
tu as dit.
Oui.
Ensuite, une question d'ordre plutôt historique. Tu as fait la mention, quand tu as parlé du temple, du fait que l'arche de l'Alliance était absente du temple. Est-ce que tu peux donner une précision? Est-ce qu'on sait à partir de quel moment cette arche a disparu? S'agit-il de la profanation du temple par le général romain Pompée ou est-ce que c'était plus avant dans l'histoire?
Non, 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 c'est beaucoup plus avant. Et puis la majorité des historiens bibliques et des commentateurs bibliques croient que l'arche a disparu lors de la destruction du temple par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Lors de la, peut-être d'une manière plus particulière, même lors de la troisième vague de déportation, mais là, il y a des disputes là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, c'est clairement pendant la destruction de Nebuchadnezzar, des Babyloniens, en fait.
Certains pensent même qu'elle est toujours cachée dans le mont du temple, parce qu'il y en a qui l'ont recherchée, hein, il y a quelques années en arrière.
Oh oui, puis il y a beaucoup de spéculations là-dessus, mais soyez très prudents avec ce genre d'informations.
Alors, comme autre question de Samuel, par rapport à la note 11 de la page 24, peut-on penser que la nécessité de deux témoins est typique pour Matthieu, par rapport en citant Deutéronome 17 ou 19?
Ce serait à vérifier, ça. C'est très intéressant comme question, très pertinent. Faudrait simplement vérifier si Matthieu a cette habitude-là de faire. T'sais, vous savez que la première démarche, c'est pour comprendre un texte biblique, c'est toujours de regarder ce qui est vraiment dit dans le texte, ce qui est là, vraiment ce qui est là. D'aller chercher le maximum d'informations dans le texte lui-même. Après, de regarder un peu plus large, d'aller voir dans les évangiles synoptiques les autres, de comparer avec, bref, les quatre évangiles ensemble, et puis de voir peut-être ailleurs dans l'Écriture. Puis, on peut arriver avec quelques hypothèses par la suite. Là, je ne sais pas si on parle d'hypothèse ou d'une affirmation fondée, mais personnellement, je devrais le vérifier pour m'assurer de ça. Mais c'est très intéressant comme idée. Là, je pourrais pas dire quoi que ce soit là-dessus, ça m'est jamais passé par l'esprit que ça puisse avoir été un élément d'argument pour Matthieu ou d'importance dans son témoignage.
Voilà, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Si j'ai mal cité une question, n'hésitez pas à me le dire par le chat ou si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de Gilles. On arrête là. Si j'ai bien
Écoute,
compris,
ben.
tu avais encore quelque chose à dire ou...
Il reste 5 minutes
Oui.
techniquement, mais je me dis tant qu'à faire le dernier point à la course, on peut juste arrêter ici, oui.
Donc la prochaine fois, on recommence à la page 27, c'est juste?
Exactement.
Est-ce que tu as déjà fixé un but? pour la prochaine rencontre ou nombre de pages?
Il faut s'ajuster en cours de route, là, mais
Eh bien, tu me dis.
j'aimerais me rendre à la fin de la page 34, même 35, là, d'inclure le quiz. Ça, c'est le minimum. Il faut que je me rende là parce que c'est vraiment un défi assez immense de couvrir avec le nombre d'heures qu'on s'est fixé, là, couvrir tout ce matériel, c'est fou, quelque part.
Parfait. Alors merci beaucoup Gilles pour cette soirée.